Et si vous preniez le temps de partir en retraite? Je ne sais pas à quel moment de l'année vous regarderez cette vidéo, mais je peux vous dire pour une fois que cette vidéo, je l'ai enregistrée ce vendredi 17 décembre 2016. Et la raison pour laquelle je vous mentionne la date, c'est que simplement l'inspiration du sujet d'aujourd'hui qui est je pars en retraite. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je prends ma retraite et que j'arrête de travailler, non. Je n'envisage pas de prendre ma retraite au niveau de ma vie. Je pense que le jour où je mourrai, ben je mourrai, mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter, d'être en mouvement jusqu'au dernier jour de ma vie. Non, je pars en retraite parce que dans quelques jours, nous serons à cette date absolument fondamentale dans l'expérience humaine sur la Terre, qui est la date du solstice d'hiver. Et vous le savez, parce que j'ai déjà programmé, j'ai déjà produit des vidéos sur retrouver l'esprit du solstice d'hiver, et je trouvais intéressant de vous partager une autre facette de comment je vis ce solstice d'hiver. Alors, même si vous écoutez cette vidéo au mois de mai 2017 ou 2018 ou au mois de juillet ou au mois de septembre, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup d'informations qui pourraient vous inspirer et qui pourraient vous donner l'envie, vous aussi, de partir en retraite. Parce qu'il n'y a pas qu'un moment de l'année où on peut partir en retraite. En tout cas, moi, c'est un rendez-vous incontournable en ce qui me concerne. C'est que la période du solstice d'hiver, pour moi, c'est un moment de retraite avec moi-même. C'est un moment de retrouvailles avec moi-même pour faire le bilan et pour me fixer des objectifs pour l'année suivante. Ça, c'est évident. Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo que je vous invite à réécouter ou à écouter si vous ne l'avez pas encore entendu. Bien. Donc, le sujet de la retraite, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant de préparer à votre attention parce que je me suis dit, ben tiens, finalement, j'ai toujours pratiqué plusieurs formes de retraite dans ma vie et je me suis amusé à faire la liste des différents types de retraite que j'avais vécu dans mon existence pour vous le partager, pour vous dire ce que j'avais découvert dans chaque catégorie de retraite pour peut-être vous donner à vous aussi l'envie et l'inspiration de mettre cette pratique dans votre vie quotidienne. Une retraite, ça sert à quoi? Bon, ben, il suffit d'écouter le mot, hein. Retraite, c'est se retirer du monde, c'est se retirer de l'agitation du monde pour pouvoir se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour se remettre à l'écoute de sa propre vie. En fait, une retraite, c'est véritablement ça. C'est se couper des distractions. Et j'ai fait une vidéo récemment qui s'intitulait « Je fuis les distractions » où justement, toutes ces sollicitations extérieures, eh bien, on va s'en couper en choisissant d'aller dans un lieu qui va être protégé du monde. Alors ce lieu, ça peut être un monastère religieux, qu'il soit catholique, musulman, juif, enfin peu importe, un monastère bouddhiste, un monastère zen, etc. Peu importe, ça peut être aussi un lieu que vous louez pour la circonstance, ça peut être un chalet que vous louez dans une montagne ou dans la nature, etc. Ça peut être une plage ensoleillée. Peu importe, ça doit être un lieu qui vous coupe de votre monde habituel, qui vous coupe de vos stimuli habituels pour pouvoir justement, une fois que vous avez coupé tous ces stimuli, vous mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est Confucius, notre bon vieux Confucius, qui disait « Se retirer du monde, n'être ni vu ni connu aux yeux des hommes, sans en éprouver de la peine, c'est cela être un véritable sage. » Et je trouve que notre bon vieux Confucius avait bien raison parce que je pense que c'est ça qui peut nous apporter une profondeur et une sagesse en tant qu'être humain. C'est notre capacité à régulièrement nous retirer du monde pour pouvoir nous retrouver et pour pouvoir finalement nous reconnecter avec notre essence profonde. et pour nous reconnecter avec notre légende personnelle, notre mission de vie et ce qui fait notre unicité. Bien. Alors, quelles sont les retraites que j'ai vécues dans ma vie? La première expérience des retraites que j'ai faite, c'est grâce à mon appartenance à l'Église catholique, puisque lorsque j'étais adolescent, à partir de l'âge de 15-16 ans, eh bien, l'école catholique que je fréquentais nous proposait de faire une retraite de 3 jours. On appelait ça à l'époque une récollection. Et cette récollection, finalement, c'était l'occasion de se retrouver dans un lieu particulier, avec quelqu'un qui prêchait la retraite, donc il y avait un prêtre ou un laïc qui venait nous proposer des réflexions, qui nous proposait de réfléchir un peu sur le sens de notre vie, sur la manière dont nous vivions notre foi catholique dans notre vie quotidienne, pour essayer de faire un pont entre une pratique religieuse qui parfois était juste cantonnée au dimanche matin, à la messe du dimanche matin, et puis notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, nos rapports les uns avec les autres, etc. Et je dois dire que dans ces premières récollections, la découverte que j'ai faite fondamentale, c'était la découverte du silence et la découverte de l'intériorité, la découverte de la prière en silence, c'est-à-dire de pouvoir... Parce que même dans une église, lorsque je fréquentais l'église avec mes parents tous les week-ends, en fait, il y a très très peu de silence dans une église. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il y a une célébration eucharistique, il y a des paroles quasiment tout le temps. Il y a très 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 peu de temps de méditation, de temps de silence. Et là, pour la première fois de ma vie, je découvrais l'intérêt de prendre plusieurs minutes sans aucune parole extérieure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé par la suite dans d'autres types de retraites, puisque à l'âge de 19 ans, j'ai eu l'envie de faire une retraite silencieuse de 10 jours. C'est une retraite que j'avais faite dans la communauté de Thésée. Alors, pour ceux qui connaissent la communauté de Thésée, T-A-I-Z-E, c'est une communauté qui a été fondée par un pasteur protestant qui s'appelait Roger Schutz. Et Roger Schutz avait établi sa communauté écuménique destinée essentiellement aux jeunes, à la vie spirituelle des jeunes. Il l'avait implantée en France, en Bourgogne, je pense que c'est la Bourgogne encore de ce côté-là, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Et j'ai eu l'occasion, pour la première fois de ma vie, de me taire pendant 10 jours. Alors vous allez me dire que pour moi, c'est vraiment exceptionnel parce que je parlais tout le temps. Et c'est vrai que être dans un contexte où je me trouvais avec une centaine d'autres jeunes, on logeait sous tente, on avait nos repas sur place, etc. Et ces 100 jeunes ne parlait pas. Personne ne parlait. La seule façon de communiquer, c'était à travers le regard, c'était à travers les sourires, à travers les gestes, à travers les attitudes. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. De me rendre compte, et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût d'étudier les théories de communication par la suite, parce que c'est là que je me suis rendu compte pour la première fois que communiquer, c'est bien plus que parler. Que la communication, finalement, se fait bien au-delà des mots. Et c'est dans cette retraite silencieuse aussi, parce que bon, dans mes récollections en tant qu'adolescent dans l'école catholique que je fréquentais, les moments de silence duraient 5 minutes, 7 minutes, ça me paraissait déjà une éternité. Mais vous imaginez 10 jours en silence total, complet, avec 100 personnes autour de vous. Ça a été pour moi une expérience fondatrice de mon intériorité et de mon intimité avec moi-même. C'est là que la première fois, je découvrais que je pouvais avoir une relation intime avec moi-même. Je découvrais aussi que je pouvais avoir une relation très intime avec les autres sans que la parole vienne gâcher cette qualité de relation. Je suis même tombé amoureux d'une fille à cette époque-là qui est tombée aussi amoureuse de moi, et nous avons gardé un contact pendant plusieurs années par la suite. Et quand on se revoyait et qu'on parlait à ce moment-là, on a trouvé toujours moins riche et moins intéressant nos rencontres quand on parlait que quand on ne se parlait pas, ce qui fait que du coup, on ne s'est plus vu. Et c'est là aussi que j'ai découvert que le Dieu qui était le dieu de mon enfance, de mon adolescence, qui était un dieu extérieur, qui était une personne avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais dialoguer. Ça, c'était la conception qui m'avait été transmise, ou que j'avais comprise en tout cas, de mon éducation catholique. Tout à coup, au creux du silence, je découvrais que le divin pouvait se trouver au creux de mon cœur, que finalement le divin n'était pas à l'extérieur de moi, mais que le divin était partout, et en particulier au cœur de ma propre vie. Et finalement, c'est dans le silence, c'est dans l'absence de parole que je commençais à découvrir une autre dimension de la divinité et du Dieu. Ce qui fait que du coup, ben, en 1987, j'avais 26 ans à ce moment-là, j'ai quitté l'Église catholique, j'ai quitté ces représentations qui ne me convenaient plus par rapport aux expériences que je pouvais faire chaque fois que je faisais des retraites silencieuses. Et c'est là que je suis passé de retraites religieuses à des retraites spirituelles. Et vous voyez, la différence que je fais, c'est que pour moi, la religion, c'est un ensemble de pratiques communautaires et c'est une organisation sociale. Hein, il faut bien le dire, dans toute ville, dans tout village, eh bien, on va trouver une église, on va trouver une mosquée, on va trouver un temple. On va trouver donc une organisation sociale qui a été structurée à partir de la religion. Et c'est très bien comme ça. Je dirais que si nous sommes organisés aujourd'hui en tant que société, c'est bien grâce au fait que nous avons eu l'influence de religions comme la religion juive, la religion catholique, la religion musulmane, et je les mets sur le même pied, ce sont les trois grandes religions monothéistes et qui ont chacune contribué à la structuration du monde. Mais en même temps, j'ai tout fait par rapport à tout cet ensemble de lois qui avaient été mises en place par les théologiens par-dessus les textes d'évangile ou les textes du Coran, etc., et qui font que finalement, cette relation intime que j'avais découverte avec Dieu, je ne la retrouvais plus puisque j'avais toujours quelqu'un qui me disait comment je devais faire, comment je devais croire, comment je devais communiquer, etc. Alors que pour moi, ça devenait quelque chose d'évident. C'est donc là où j'ai quitté l'Église catholique pour faire des expériences de retraite spirituelle. Alors, ce n'est pas pour ça que j'ai quitté les monastères. J'ai toujours énormément apprécié les monastères. Ce sont des lieux absolument fabuleux qui très souvent sont implantés dans des parcs magnifiques parce que ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils sont implantés. Donc, vous avez des arbres plusieurs fois centenaires qui vous environnent et qui vous aident à vous élever spirituellement. J'ai eu aussi l'occasion d'aller en Inde dans un ashram pendant 3 semaines, où là, pendant 3 semaines, j'ai été aussi l'essentiel de mon temps en silence. Et c'était un ashram où je n'étais pas obligé d'adopter et d'adhérer à ce qui était enseigné, c'était simplement un lieu chargé énergétiquement et qui était là pour encore plus approfondir cette intimité avec ma vie intérieure et avec les autres, mais au-delà des mots de nouveau. Bien, donc ça, c'est encore un autre type de retraite que vous pouvez faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une retraite religieuse en référence à une religion établie. Vous pouvez faire une retraite spirituelle, c'est-à-dire où vous prenez soin essentiellement de votre vie intérieure. Un autre type de retraite aussi que j'avais envie de vous partager, c'est une retraite que j'avais faite juste avant de me marier la première fois. C'était en 1982, j'avais 21 ans, et ma future femme et moi, nous avons pris la décision de faire une retraite de 8 jours dans un monastère en étant accompagnés par un père jésuite. Eh bien oui, on venait d'une université jésuite, et donc un père jésuite nous avait proposé de faire les fameux exercices spirituels de Saint-Ignace, qui est en fait un processus de discernement. Donc, on n'est pas obligé d'entrer de nouveau dans le langage religieux très connoté par Saint Ignace de Loyola. Bon, à l'époque, ça ne nous dérangeait pas puisqu'on était catholique, mais au-delà de ça, je trouve que les exercices spirituels de Saint Ignace nous ont appris le discernement. Et ce qu'on a trouvé intéressant, et donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous recommande d'expérimenter en tant que couple, parce que nous avons fait par la suite plusieurs fois des retraites spirituelles, ma première femme et moi. C'est que ces retraites vous permettent de donner une dimension supplémentaire au sens de votre couple finalement. Parce que très souvent, on va se marier pour des bonnes raisons. On va se marier parce qu'il y a une bonne entente sexuelle. On va se marier parce qu'il y a une bonne entente relationnelle, une bonne entente émotionnelle. On va se marier peut-être parce qu'on a envie de fonder une famille, on a envie d'avoir des enfants et parce qu'on partage les mêmes valeurs ou les mêmes croyances ou la même foi ou la même culture. D'accord ? Donc, et c'est très bien. On avait trouvé intéressant et important d'ajouter une dimension spirituelle, de se poser la question, mais quel est le sens spirituel de notre couple ? Quel est l'engagement spirituel que notre couple peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nos enfants à venir, etc. Et nous nous sommes toujours félicités d'avoir fait cette démarche de discernement avant de se marier, pour décider si oui ou non on veut se marier, et si on se marie, quelle dimension spirituelle mettons à notre vie de couple, mais par la suite d'avoir fait d'autres retraites spirituelles où nous refaisions le point sur tous les plans, y compris la dimension spirituelle, ça nous a vraiment été très utile. Quand ? Eh bien, quand les autres aspects de notre vie devenaient difficiles. Vous savez, quand la vie sexuelle commence à être difficile, ça arrive dans tous les couples, on sait qu'il y a des passages à vide qui peuvent être plus ou moins longs dans la vie de couple. Il y a des passages au niveau relationnel, au niveau communicationnel qui sont difficiles, au moment de l'arrivée des enfants, au moment où on traverse, où on est presque en faillite, où on fait une faillite, où une maison brûle, ou des choses comme ça, il y a des épreuves très très fortes. Et très souvent, le couple à ce moment-là ne survit pas à ces épreuves. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre dimension qui nous permet de tenir à travers le désert. Et c'est véritablement des traversées du désert que nous avons vécues, ma première femme et moi, à certains moments de notre vie, des grandes épreuves qui ont été très très éprouvantes, mais en même temps, ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'il y avait toujours cette dimension spirituelle comme une petite flamme allumée dans l'obscurité que nous étions en train de traverser. Et c'est pour ça que je vous recommande aussi peut-être d'envisager à un moment donné, si votre partenaire de vie est ouvert à cela, de faire une retraite spirituelle en étant accompagné par un guide spirituel, par un prêtre, par un conseiller, mais de rajouter une dimension qui est la dimension du sens. Alors si le mot spirituel vous gêne, eh bien c'est quel sens et quelle vie intérieure allez-vous donner à votre couple. Et je vous parlais justement de traverser un désert relationnel quand on est dans une vie de couple. Et ça, c'est une des seules expériences pour l'instant que je n'ai pas faites en tant que retraite, c'est d'aller faire une retraite dans le désert. Ma première femme en a fait à plusieurs reprises et j'ai connu plusieurs personnes qui ont fait des retraites dans le désert. Et ça, c'est une expérience extrêmement radicale parce que c'est une expérience où finalement, non seulement vous êtes coupé du monde, vous vous êtes retiré de toutes les distractions du monde, mais en plus, vous êtes réduit à l'essentiel de la survie d'un être humain, c'est-à-dire un peu de nourriture, un peu d'eau, la protection vis-à-vis du soleil intense, la protection vis-à-vis du froid intense pendant la nuit, et puis vous êtes seul avec des étendues de sable à perte de vue. Ça, c'est vraiment une expérience encore plus radicale au niveau spirituel, parce que là, vous êtes seul face à vous-même. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup de grands mystiques ont fait des expériences d'ordre mystique au cœur du désert. C'est parce que dans le désert, vous n'avez plus aucune distraction. Vous savez, quand je fais une retraite sur une plage, quand je fais une retraite dans un chalet, il y a encore la stimulation des arbres, il y a la stimulation des meubles, il y a la stimulation des autres que vous voyez passer, même si vous ne parlez pas avec eux. Vous avez quand même encore beaucoup de stimulation. Vous en avez moins que dans votre vie de tous les jours, mais vous en avez encore. Dans le désert, vous n'avez quasiment plus aucune stimulation. Et vos modes de survie sont réduits à l'essentiel. La nourriture, la boisson et la protection par rapport au chaud et au froid, c'est-à-dire maintenir une température relativement confortable pour le corps humain. Ça, c'est un de mes objectifs de vie, c'est de faire dans les prochains mois ou dans les prochaines années, je ne sais pas quand je pourrai organiser ça, une retraite dans le désert. Je ne sais pas encore quel désert, mais en tout cas, c'est ça fait partie, je dirais, de mes objectifs de vie. Alors, un autre type de retraite encore, c'est ce que j'appelle les retraites d'orientation de vie. Les retraites d'orientation de vie, ce sont les moments où je me sens un peu perdu, je me sens un peu confus dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Dans des moments comme ça, je sais que la priorité absolue, c'est de retrouver l'ancrage à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Même si je suis débordé de travail, même si j'ai des obligations, même si on a des rendez-vous avec des amis ou des amis, etc., eh bien, j'annule tout et je pars en retraite pour quelques jours pour faire le point avec moi-même. C'est-à-dire que je me rends compte que quand je suis perdu, quand je ne sais plus dans quelle direction aller, quand je ne sais plus quelle direction donner à ma vie, eh bien, c'est le moment, c'est le signal que je n'ai plus pris le temps d'écouter le murmure de mon âme, si vous voulez, le murmure de mon cœur, et que je ne sais plus dans quelle direction aller. Donc, pour moi, la confusion mentale, le fait d'être perdu, c'est un indicateur que j'ai besoin de faire une retraite. Et donc, à ce moment-là, je pars et ça, je le fais minimum 2-3 fois par an pendant quelques jours pour justement me recentrer, me réaligner, me remettre à l'écoute de « oui, mais finalement, où est-ce que je vais là ?» Donc, refaire le point, donc sortir ma boussole, sortir mon sextant, sortir ma longue vue et puis me demander, mais finalement, où est-ce que je vais et comment est-ce que je peux y aller le mieux que je peux. Voilà. Autre retraite aussi, c'est une retraite d'écriture. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Chaque fois que j'ai un projet de nouveau livre ou lorsque j'ai un projet d'un nouveau programme de formation que je vais vendre en ligne, que ce soit le programme de l'Académie de la vie en mouvement que j'ai fait pendant une retraite, que ce soit le programme de l'Académie des relations authentiques ou le programme de l'Académie de la vie consciente, eh bien, à chaque fois, je pars en retraite et ça, toute mon équipe le sait que je pars dans un processus de création, de créativité. Je pars dans un processus de réflexion pour mettre au monde un nouveau programme ou un nouveau bébé qui sera un nouveau livre. Et à chaque fois, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument incontournable. Vous savez, de la même façon qu'une femme ne va pas accoucher d'un bébé en plein milieu d'une rue passante, eh bien, un auteur ou un formateur, ou n'importe qui d'autre, un inventeur, ne va pas accoucher d'un projet au milieu d'une foule bruyante et distrayante. Non, on a besoin de cette intimité, on a besoin de cette solitude pour pouvoir justement créer et pour pouvoir donner une forme à ce qu'on pressent comme étant déjà à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas encore actualisé, qui n'est pas encore matérialisé. Alors, dernier type de retraite dont vous pourriez peut-être avoir besoin et qui pourrait peut-être vous inspirer, c'est ce que j'appelle les retraites de guérison. Quand vous avez été extrêmement malade ou quand vous êtes confronté à une maladie, eh bien, ça peut parfois être vital au sens propre du terme, c'est-à-dire ça peut vous sauver littéralement la vie, de couper les ponts avec tout votre entourage personnel et professionnel pour faire une retraite de guérison. Alors, cette retraite de guérison, ça consiste en quoi? Eh bien, si vous vous rendez compte que la maladie physique avec laquelle vous êtes aux prises actuellement a un lien avec des relations toxiques dans votre entourage personnel ou professionnel et ou professionnel, ben, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez guérir cette maladie physique en faisant le travail nécessaire sur le plan émotionnel aussi. Parce que, vous savez, il n'y a pas de guérison physique sans guérison émotionnelle. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail de guérison émotionnelle si vous êtes entouré des mêmes personnes qui vous ont intoxiqué, c'est-à-dire des mêmes personnes qui vous ont empoisonné l'existence à un tel point qu'à un moment donné, votre seule façon de sortir de ce piège toxique, c'était de tomber malade physiquement. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop faible à ce moment-là. Vous êtes déjà atteint par la maladie. Si en plus, vous devez continuer à subir cette toxicité involontaire et inconsciente de votre entourage, ben, c'est clair que votre âme, à un moment donné, va décider de mourir parce que ce sera la meilleure solution pour elle, parce que vous ne pouvez plus et vous ne voulez plus endurer la toxicité de votre entourage. Et là, une retraite, ça peut littéralement vous sauver la vie. En tout cas, j'ai plusieurs connaissances qui ont eu cette sagesse de comprendre que leur maladie venait de la toxicité de l'entourage et se sont coupés du monde, se sont coupés de tout le monde, ont pris une personne de confiance qui était la seule à savoir où la personne se trouvait et qui filtrait toutes les communications entrantes et sortantes entre le malade qui était en train de se guérir ou la malade qui était en train de se guérir et tout le reste du monde. Et ça, j'ai trouvé ça brillant de la part de ces personnes que j'ai connues de mettre en place cela. Le temps de vous... De la même façon que quand vous avez une blessure, on va mettre un pansement pour permettre à votre peau de se reconstituer et à votre chair de se refaire. Eh bien, la même chose, quand vous avez été blessé émotionnellement par votre entourage, vous avez besoin de vous mettre à l'écart de cet entourage pour vous réparer. Et une fois que vous êtes réparé, vous allez revenir guéri dans le monde. Et là, vous allez décider avec qui vous avez envie de continuer à avoir des relations et avec qui vous n'avez plus envie d'avoir des relations. Et là, vous allez devoir prendre des décisions radicales pour ne pas retomber malade 6 mois plus tard. Ça, c'est le dernier type de retraite dont j'avais envie de vous parler pour juste vous donner de l'inspiration, juste vous donner l'envie de faire quelque chose de signifiant et de significatif pour vous. Alors, le lieu de retraite, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un monastère, ça peut être un chalet que vous louez, ça peut être une plage ensoleillée, peu importe l'endroit, ça peut être un endroit isolé dans la montagne, mais vraiment, ce sont des expériences que je vous recommande de faire si vous n'en avez jamais eu l'expérience. Vous verrez que c'est une autre dimension de vous-même, c'est une autre dimension de votre vie que vous découvrirez à travers ces expériences absolument radicales, mais absolument fondatrices de votre réalité d'être humain. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétence.